Double Ren. Double Ren.
Et salut, vous écoutez Purple Rain qui démarre et qui dure jusqu'à 20h en direct tous les mercredis. Moi c'est Georges et avec moi il y a Ben. Allez, on change de
bord. Salut Georges.
Et Ben qui réalise le live de cette émission comme tous les mercredis soirs vers 19h20 à peu près. Puisque cette émission, eh bien, le programme ne change pas. D'une semaine à l'autre, on accueille un ou une artiste rennaise et on parle d'une sortie d'album, d'une tournée qui démarre, ce genre de choses, n'est-ce pas Kat?
Tout à fait.
Et c'est toi qui nous présente nos invités ce soir.
Exactement. Les héritiers de la French Touch, ça ne veut rien dire, sont dans les studios de Canal B ce soir avec nos invités Mac and Wester, un duo rennais de musique électronique biberonné à justice. Ou encore Daft Punk. Oui, c'était le son du clip où il parle, donc je n'ai pas trouvé le titre sans ce son-là. Mac and Wester, tout comme Daft Punk, prônent d'ailleurs l'anonymat derrière leur cagoule, un choix pour mettre en avant leur proposition artistique et s'effacer derrière leur musique. On en saura peut-être un peu plus ce soir sur qui se cache derrière le duo cagoulé, ou pas, en tout cas nous maintenant. On connaît leur tête. Un premier EP sorti en mars 2024, Spectre. 5 titres électroniques à la rythmique puissante. Un mélange d'influences électroniques, pop, rap, avec des invités pour interpréter leurs mots, comme Sawyer, Mel ou encore Jeanne Bonjour.
J'aime planer au-dessus des cimes, parler de mes ressentis.
Instant culture, instant Wikipédia. La French Touch, décidément je ne saurais pas le dire ce soir, ça va être compliqué pour cette émission, est apparue pour la première fois à Paris en juin 87. Le saviez-vous, lorsque Jean-Claude Lagrèze, le photographe des Nuits Parisiennes, crée des soirées French Touch en faisant découvrir la musique house et les DJ comme Laurent Garnier ou bien encore David Guetta. L'expression elle est ensuite reprise en 91 parce qu'il y a un blouson qui a été créé pour les Fnac Music Dance Division et qui portait l'inscription « We give a French touch to house ». Nous donnons une touche française à la musique house. Les journalistes Les journalistes britanniques popularisent ainsi le terme et contribuent à la diffusion du mouvement Outre-Manche où arrivent à partir de 96 des productions électroniques françaises en grande quantité. Voilà, c'était l'instant culture de
faire du copier-coller sur Wikipédia.
Terme. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit directement instant Wikipédia, puisque c'est la définition de... Voilà. Daft Punk n'est plus, mais la relève est bien là. La French Touch 2.0, la Mac and Wester Touch, c'est dur à dire. Réussissant à injecter l'esprit de sa génération à cette vague des années 90, on écoute tout de suite un premier titre, Orage de l'EP Spectre qui est sorti en mars dernier, c'est bien ça?
Bon, on va leur demander juste
c'est
après.
Ça.
On écoute.
Thank you.
Et bonsoir McAnwester.
Salut.
Bon, on est très content de vous recevoir. Certains d'entre nous ici vous ont déjà découvert à I'm From Rennes cette année. Et on aura sans doute le plaisir de vous voir, de vous découvrir au Trans Musical dans quelques semaines maintenant. Ça s'est passé comment la rencontre avec les Trans? Comment vous avez été sélectionné pour ce festival?
Alors du coup, la rencontre avec les Trans Musical, ça s'est fait au 4 bis, tout simplement. On a fait une sortie de résidence là-bas, on avait préparé notre live. Et du coup, un des membres du 4 bis a invité l'équipe des Trans Musical qui est venue du coup. Et voilà, donc on a échangé avec eux. Ils nous avaient donné à l'époque des pistes d'amélioration pour notre live en nous disant que on tranchait pas assez en fait. Et du coup, on a travaillé pas mal. Tranchait pas assez parce qu'on a pas mal d'influences musicales diverses. Et en fait, on faisait pas vraiment un choix. Et aujourd'hui, on en a pas fait un non plus. Mais on a mis l'accent sur l'électro, sur la French Touch, justement. Et pour que ça fasse plus lié, pour que ce soit plus compréhensible pour le public surtout. Et du coup, après leur conseil, Jean-Luc Brossard était revenu nous voir à une date à la Mi-Mobile et nous avait dit, bah, du coup, les gars, je vous programme au Transmusical cette année.
C'est le programmateur des Transmusical et il était déjà là à la sortie de résidence au 4 bis.
C'est ça.
Ah oui, il vous a vu deux fois et il a vu la différence entre la première fois et la deuxième.
C'est ça, exactement, oui.
Waouh, c'est plutôt cool.
Oui, très cool.
Quand vous parlez de la French Touch, comme ça je me rattrape, ça y est, je l'ai bien dit. C'est quand même un mouvement qui est né dans les années 90 et c'est vrai qu'on doit toujours vous comparer, Justice, Daft Punk, tous ces groupes-là. On pense à eux quand on vous voit en live et quand on vous écoute. C'est quand même né en 90, on va rien dire sur vous, mais qu'est-ce qui vous plaît dans ces années-là? Parce que vous n'étiez peut-être pas déjà là. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce courant et dans ces années-là?
Je crois qu'il y a un côté très fait maison. Qui nous plaît. C'est vrai que dans les années 90, que ce soit dans le rock ou bah, dans la house ou dans l'électro d'une manière générale, il y avait vachement ce côté do it yourself. Dans la French Touch notamment, ils n'allaient pas dans des énormes studios, ils faisaient tout chez eux, ils achetaient leurs propres machines et des fois des machines très chères ou des machines complètement presque gratuites quoi. Et ils arrivaient à sortir un son. Justement, c'est pour ça qu'on retrouve dans ces groupes là des sonorités avec beaucoup de textures très saturées, des fois un peu qui frôlent sur du noise quoi. C'est parce qu'en fait bah ils poussaient leur machine jusqu'au bout pour essayer d'avoir un son, parce que de toute façon ils avaient pas d'autre choix en fait, ils étaient très contraints en fait, et donc ça donnait une sonorité assez particulière. Et je crois que c'est un truc qui nous a bien plu, sachant qu'en plus aujourd'hui c'est assez simple de pouvoir faire de la musique de très bonne qualité maintenant avec les ordinateurs, donc ça nous permettait aussi d'avoir un retour au son un peu crado qui était sympa.
On en parlait hors antenne, mais finalement vous êtes arrivé à cette patte-là, à cette esthétique-là, un petit peu par hasard. Vous venez pas forcément de ce milieu-là, plutôt rap pour l'un et plutôt rock pour l'autre. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce style-là et comment vous y êtes arrivé finalement?
C'est un peu une recette où on avait, enfin, en gros, on a construit ça tous les deux sans vraiment s'en rendre compte. On a mélangé nos influences et petit à petit, on est arrivé sur de la French Touch. C'est les gens qui nous ont fait remarquer ça, parce qu'il y a ce côté assez simple dans les mélodies quand même, qui peuvent des fois un peu transporter, des fois qui sont un peu saillantes, mais il y a quelque chose d'assez simple. Il y a jamais une mélodie qui part dans tous les sens. C'est plutôt rare. Il y a ce côté aussi très breaké qu'on apporte, et en fait, ça plus ça, ça a donné un peu ce côté French Touch qu'on n'avait pas forcément calculé au début. Et voilà, tout simplement.
Vous utilisez du matos qui était utilisé aussi par les pionniers de la French Touch ou pas du tout?
Un peu. Enfin, disons qu'on n'utilise pas les versions originales, par exemple une TR-909 ou une TR-808, parce que ça vaut beaucoup trop cher maintenant.
Ça, c'est des boîtes à rythme.
C'est des boîtes à rythme, exactement, qui étaient très utilisées, notamment la 909. On utilise plutôt des reproductions aujourd'hui parce qu'il y a des marques qui font ça très très bien pour pas très cher. Mais oui, on utilise quasiment que du matériel analogique comme à l'époque pour faire nos sons. À la différence que eux, ils n'avaient pas de DAW, c'est-à-dire d'un Ableton ou un FL Studio quoi. Nous, on utilise ça. C'est beaucoup plus moderne comme approche et plus simple quand même.
En live, ça donne quoi? Vous avez quoi comme matériel? Plus que ce que vous avez là dans le studio,
j'ai oui, totalement.
Ouais, on a à peu près deux fois plus. En gros, là, on a apporté du coup la batterie électronique et le subfati, qui est un Moog qui fait des basses. Enfin, on s'en sert pour faire des basses en tout cas. Et sur scène, sinon, on a un autre Moog, un Grand Moser, pour faire également des basses, et un synthé qui s'appelle l'AS Machine, qui nous permet, nous en tout cas, de faire des arpèges. Ça ressemble un peu à un sérum, c'est pas exactement la même chose, mais ça permet de faire des... On s'en sert pour faire des arpèges. On a une TB-303 aussi.
Et vous utilisez la batterie électronique aussi sur scène ?
Totalement, ouais. En fait, c'est une batterie électronique qu'on a un peu modifiée pour qu'on puisse la jouer debout. Ça donne un aspect un peu plus dynamique au live plutôt que si j'étais assis en train de la jouer, quoi.
Effectivement, live, vous sautez un peu partout, ouais. Les deux. Pardon, Ben, je t'ai coupé la parole, vas-y.
Mais non, j'allais dire par rapport à une boîte à rythme, en fait, où il y a une espèce de régularité induite de par la machine, est-ce que c'est pas dur de garder un peu cette régularité qui est un peu importante aussi dans la musique électronique quand tu la joues
En fait, il y a une partie des drums qui sont envoyés par notre ordinateur, notamment les charlets, qui sont très très droits, qui vont rappeler ce côté très électronique. Mais justement, le fait d'avoir une grosse caisse et une caisse claire qui est jouée par un humain, ça donne un autre groove, un autre ressenti, je pense, en live, où on est un peu plus avec le mouvement de la foule, plutôt qu'une boîte à rythme qui va indiquer la pulse, quoi.
Et quand vous composez justement vos morceaux, vous avez le live déjà en tête, ou vous composez d'abord et c'est l'étape d'après, parce qu'en live, vous avez peut-être envie de quelque chose de plus fun, où les gens s'amusent. Est-ce qu'il y a une différence dans votre façon de construire les choses ?
Ça dépend des morceaux, en vrai. Il y a des morceaux qu'on va penser d'abord pour le live, mais la plupart du temps, on découpe quand même les étapes. D'abord, on fait quelque chose pour le studio, ensuite, on fait d'abord une composition, on va après se poser la question de est-ce qu'une voix dessus est nécessaire ? Est-ce qu'on va faire appel à tel ou tel interprète ? Et souvent, ce qu'on va faire, justement, c'est que pour le live, on va réadapter le morceau pour pouvoir permettre de ne pas casser l'élan, même si on a beaucoup de breaks. Souvent, des fois, on va en enlever un peu. S'il y a beaucoup de voix avec du texte, on va essayer de rendre ça un peu plus... de rendre la voix d'une manière un peu plus mélodique pour pas que ça casse les gens dans leur élan. Donc ouais, il y a une question de réadaptation des compositions après pour pouvoir permettre d'offrir une expérience différente en live et mieux adaptée à l'exercice.
Et en parlant du live, c'est pas rien, vous allez faire la Green Room le samedi pour les trans musicales. Vous avez prévu un show un peu spécial, peut-être un visuel en plus, des choses comme ça. Vous travaillez cette partie-là aussi ou pas ?
Eh ben, en fait, là, ça va être une config assez particulière parce que cette année, la Green Room va être remise au centre. Donc, en fait, on va être comme un Boiler Room podium, quoi. Donc, on va être un peu plus haut qu'à sur un Boiler Room. Mais donc, il va falloir qu'on arrive à adapter un peu la scéno sur une scène 360.
C'est quoi un Boiler Room ?
Boiler Room, c'est une émission sur Internet qui invite souvent des producteurs et des artistes typé un peu électro, quoi, et ils vont faire un énorme DJ set super bien, c'est filmé, et en fait il y a tout le public qui est autour d'eux, il y a une énorme proximité avec le public, et c'est assez sympa à regarder.
Ouais, souvent c'est un peu l'émission, tu regardes plus les gens qui dansent,
ouais,
sont
c'est
complètement,
ça.
complètement what the fuck.
Exactement, bah d'ailleurs le Boiler Room de Kate Ranada, il y en avait beaucoup qui disaient que c'était une étude sociologique de notre société actuelle. Si on regarde tout le public, il y a de tout, c'est assez impressionnant.
On va écouter un petit morceau choisi par vous, Mac and Wester. L'artiste, c'est John Hopkins, c'est le morceau Emerald Rush.
Exactement.
N'est-ce pas ? Et pourquoi avoir choisi cet artiste ?
Déjà, c'est un assez gros producteur électronique qui nous a pas mal touchés. Il a même produit, je crois. Il est super fort parce qu'il arrive à même produire pour des groupes comme Coldplay, donc c'est vraiment fort. Et ce morceau-là particulièrement, il nous plaît parce que il a un côté très planant au tout début. Et là, on arrive sur le drop. Et ce drop-là, c'est une espèce de boucle qui joue énormément avec la rythmique. Il y a un groove qui est assez intense, qui est assez fou, mais que j'ai pas retrouvé sur d'autres tracks. Et je sais pas, ce morceau nous transporte quand on l'écoute.
Et bien, on écoute ça. Et puis après, ce sera l'heure du live de Mac and Wester dans Purple Rain. À tout de suite. Thank you. Et nos invités ce soir, ce sont Mac and Wester. On pourra les découvrir sur la scène de la Green Room au Transmusical le samedi 7 décembre prochain. C'est quand vous voulez. Thank you. C'était Mac & Wester en direct dans Purple Rain sur Canal B. Merci beaucoup. Il y avait 4 titres. Il y avait Blur, le dernier single qui vient de paraître. Il y avait aussi Dark Oasis et Burn Me qui sont pas sortis en version, enfin sur les plateformes, je crois. Ce serait donc presque des exclus à la radio. Wow.
3 exclus radio, vous nous avez fait.
Totalement. Quel totalement.
Cadeau. Le prochain cool. single, d'ailleurs, Burn Me, sort le 22.
Ouais, 22 novembre.
22 dernier, novembre.
On a entendu, il est top. C'est ça. Et c'est, qui est-ce qui chante dessus?
C'est Amar.
Amar. Un super artiste, écrivain, interprète. Il fait du rock, mais franchement, il est très très fort.
Et vous le connaissez d'où?
On le connaît, il fait partie de notre bande de potes. En vrai, on s'est rencontrés un peu en s'amusant un peu.
C'est un Rennais.
C'est un Rennais, totalement. Ouais.
Amar, ok.
Amar, et très
fort. On a ton note.
Un single qu'il avait sorti, Fuck the King.
Ouais, super single d'ailleurs.
Super single. Et voilà, il est trop trop fort. Donc quand on avait fait la composition, on s'était dit quel interprète il nous faudrait dessus. On a directement pensé à lui, il a fait quelque chose d'incroyable. Donc voilà, vous pourrez écouter ça le 22 novembre.
Effectivement, vous aimez bien les featuring sur votre premier EP. Il y a Sawyer, Mel, Jeanne, Bonjour. À quel moment vous vous dites, là, il nous faut quelqu'un au chant, il faut... à quel moment ça intervient et de quelle manière ils interviennent sur vos morceaux ?
Eh ben, c'est... Ah, désolé, tu voulais répondre. c'est généralement... En fait, on fait toujours la compo d'abord. On la pousse le plus loin qu'on peut. Et en fait, c'est à la fin, on se demande, en fait, est-ce que ce morceau-là aurait besoin de voix ou pas ? Et à partir de là, on se dit, ok, bon, bah, du coup, plutôt voix féminine, plutôt voix masculine, qu'est-ce qu'on cherche ? Et là, on regarde, en fait, dans les interprètes qu'on connaît, qui sont aussi à notre portée, qu'on aime bien, etc. Voilà.
Et au niveau des paroles, qui est-ce qui va s'en charger ? Alors, ça va être vous, ça va être l'artiste ?
Alors,
carte blanche, comment ça fonctionne ?
Ça dépend, en vrai, on fait au mieux en fonction du morceau. Mais c'est vrai que souvent, quand c'est du français, en tout cas, c'est nous qui allons écrire. On écrit aussi des chansons typiquement anti-bop, c'est nous qui l'avons écrite. Par contre, quand c'est de l'anglais, c'est en général les interprètes, donc les artistes, qui les écrivent. Mais on n'est pas fermé non plus à faire écrire des sons en français par d'autres artistes. C'est vraiment en fonction de comment on le sent. Est-ce que nous, on va réussir à faire quelque chose qui en vaut la peine sur la composition réfléchie, toujours au mieux pour le morceau au final. Sinon, on a l'inspiration pour écrire quelque chose qui correspond, on va le faire. Mais si on estime que ce qu'on va faire est en dessous de ce qu'on pourrait avoir, on va demander à quelqu'un. En fait, c'est vraiment en fonction du morceau à chaque fois.
Et au niveau des textes, j'ai un peu envie de vous demander par rapport à votre choix de l'anonymat justement, est-ce que ce sont des textes qui parlent de vos vies, d'expériences à vous, ou est-ce que jusque dans vos textes, vous vous détachez de tout ça et vous gardez cet anonymat-là et finalement vous placez la musique d'abord et des textes peut-être moins importants qui parlent pas forcément de vous et de vos vies, on va dire.
Je pense que c'est compliqué de parler d'autre chose que de nous-mêmes, mais après, bah oui. on peut aussi parler de choses qu'on voit, d'expériences qu'on voit chez nos amis, nos familles. En vrai, c'est assez large. Je pense que, comme tout le monde, on écrit sur des sujets qui sont plutôt communs, en vrai. Tout le monde fait ça. Ce qui va différer, c'est la manière de s'interpréter les sujets de la vie de tous les jours. On est tous touchés par les mêmes choses, au même moment, peu importe la classe sociale, peu importe tout ça. Donc non, on a quelque chose d'assez universel où on va pas forcément chercher à se fuir sur nos morceaux non plus. Après, l'idée, voilà, c'est pas de faire une biographie comme sur Wikipédia non plus, c'est de romancer un peu tout ça. Mais ouais, non, on se cache pas.
Parce que ce choix de l'anonymat, justement, c'est pour vous mettre la musique en avant. C'est quoi ? C'est pour faire le buzz, pour qu'on parle un peu de vous ? Pourquoi ce choix ?
Totalement, c'est pour faire le buzz. Non,
non, mais ça fait parler de vous en tout cas.
Carrément, bah, on voit que ça intrigue, voilà. Donc ça, ouais. c'est cool en vrai. Mais non, à la base, c'est vraiment pour recentrer le propos sur notre musique en fait. Et pas centrer sur le propos sur est-ce qu'on est beau ou quoi, vraiment centré sur une personne en particulier ou quoi. Là, c'était vraiment, on crée des personnages. Voilà. Et en fait, c'est la musique qu'on présente et non pas un être humain ou quoi derrière. Voilà.
Comment vous avez choisi les tenues ?
Les tenues, c'est une styliste qui nous a fait ça, qui s'appelle Tony, une styliste rennaise qui fait plein de créations à la main. C'est super ce qu'elle fait. Et bah en fait, on l'a rencontrée il y a pas si longtemps que ça. En fait, elle est dans notre bande de potes et elle nous a proposé de nous faire nos tenues. Donc elle a tout fait de A à Z. Voilà, même le styliste, enfin, c'est-à-dire que ce soit créer, confectionner les vestes ou nous dire quelle paire de chaussures prendre et tout, et c'est vraiment cool.
C'est elle qui a tricoté les cagoules.
Exactement. C'est elle, voilà.
C'est fait main. En gros, on lui a donné nos inspirations, ce qu'on voulait représenter, ce qu'on voulait pas aussi. On a eu pas mal de tenues avant. En fait, on piochait un peu dans les placards et on prenait ce qui nous venait sous la main. On mettait des masques de ski, des trucs. C'était marrant, mais c'est vrai que c'était déjà pas très confortable. On avait vite chaud et en plus de ça, bah, c'était pas très précis comme direction artistique. Et du coup, ouais, avec Tony, on a vraiment pu bosser main dans la main. C'est pas nous qui avons tricoté, mais on lui a donné nos idées. Et elle en a fait ces super tenues qu'on adore aujourd'hui.
Et qui sont moins chaudes que ce que vous trouviez dans les placards.
Ah oui, franchement, carrément. Bah, on était capable de mettre des pulls en laine, on n'avait pas de limite. Sauf que ça a frôlé le malaise pendant 2-3 lives.
Bah, en fait, il y avait même une tenue, pour tout vous dire, qu'on avait fait après un live. C'était une tenue totalement réfléchissante. Vous savez, les matériaux qu'il y a sur les gilets jaunes, tout ça. Mmh. Et en fait, bah, c'est du synthétique, mais qui est étanche, quoi. Donc, ah c'est ouais. comme si on était habillé dans un sac poubelle, quoi. Donc le truc, c'est qu'en gros, on est sorti d'un live.
Vous étiez trempé, quoi.
Ah bah c'était mouillé, mais genre trempé. Enfin en vrai, il y avait de l'eau, quoi. C'était dingue. Et donc je me souviens, quoi, tous les deux, on est sorti, même pas 30 secondes après la scène, on a failli faire un malaise.
Ouais.
L'hiver dernier, au Trans, il y avait entre deux halls, il y avait Dalbéton qui jouait dehors. Finalement, ce serait là que vous seriez.
C'est ça, vous auriez été mieux. Bien, effectivement.
Et non, grâce à Tony, on peut jouer partout maintenant. Ah, voilà.
C'est bien. Est-ce qu'il y a un endroit, une heure idéale pour un concert de Mack & Wester?
Je pense 23h. 23h minuit, c'est l'horaire idéal. Je pense.
Ça dépend des soirées sur lesquelles on va jouer. L'horaire est bien, mais en gros, typiquement, si on fait l'ouverture d'une soirée techno, bah, comme je l'ai dit dans le nom, on va faire plutôt l'ouverture. C'est pas trop de sens de nous mettre après une soirée techno, parce qu'on est quand même des livers. Mais par contre, typiquement, sur des soirées qui peuvent être, je sais pas, moi, plus pop, plus rap, on peut facilement faire la fermeture, parce qu'il y a quelque chose d'assez énergique, dynamique, avec un peu moins de paroles. Donc voilà, mais c'est vrai que le créneau de nuit quand même est quand même beaucoup plus propice à notre musique. Nous faire jouer à 14h, ça n'a pas trop de sens.
Personne n'a osé le faire, si.
Personne n'a osé le faire à 14, par
peut-être
contre.
Peut-être un jour.
19h, si, on a déjà eu.
Ah, 19h,
et
ah,
je dis
ah,
une
oui,
bêtise,
ouais.
On a joué déjà à 11h notre premier concert.
Ah oui, l'ouverture de la ligne B.
De la ligne B du métro oui. à Clenay, et on a joué à 11h. Donc voilà, donc on l'a fait, et au final ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, notre créneau préféré, on va dire, c'est plutôt entre 22h et 1h du matin. Quoi.
Effectivement, il y a quelque chose de très festif aussi dans Vente Musique. On va vous voir aussi pour prendre du bon temps et oublier un peu certaines choses. Est-ce qu'il y a une différence entre le Mack & Wester Studio et le Mack & Wester Live? Il y a peut-être un endroit où vous vous sentez le mieux? Vous préférez peut-être la version live et là où vous proposez votre musique aux gens, vous voyez comment ils réagissent et tout ça?
Eh ben, quand on a commencé le projet, on s'était dit, nous on va être un projet studio. Ouais, on est trop des geeks de studio. En même temps, c'est un peu ce qu'on est toujours et ce qu'on était. Mais en fait, au final, plus on avance, plus on prend vraiment un énorme plaisir à faire du live. Donc je crois, enfin, je vais répondre pour toi, Mac, mais je crois que le live, c'est l'endroit où on se sent le mieux, quoi. Parce qu'on est avec la foule. On a un truc où on arrive à réunir un peu tout le monde, un peu à la manière d'un match de football où on va pouvoir avoir un cadre d'entreprise à côté d'un ouvrier, quoi. C'est un peu ça qu'on a dans les concerts et qu'on cherche aussi à avoir dans un truc de on réunit, parce qu'en fait on a remarqué que dans nos lives il pouvait y avoir des gens qui avaient 60 ans, des gens qu'on avait 16 qui se réunissaient et qui aimaient en fait la musique qu'on était en train de faire, donc
Et puis c'est assez visuel, enfin là on a eu un aperçu, c'est vrai qu'il y a la batterie qui est là, enfin ouais. Et puis en plus de ça tu fais des petits tricks de batteur là, tu fais tourner tes baguettes et tout.
J'en fais plus en live normalement, là j'avoue,
t'en fais plus en live.
J'avoue là on wow. a fait un peu les flemmards parce qu'on était dans un studio et tout, mais habituellement on saute dans tous les sens, moi j'en fais plein.
C'est ouais, assez ouais. sportif hein, quand même votre live.
C'est ouais. sportif, mmh. franchement ouais, c'est du cardio.
On pourra découvrir ça, et ce sera à quelle heure à la Green Room alors? Parce que le samedi 7 décembre.
À l'heure parfaite mais... ou pas?
L'heure parfaite, 23h.
Ah yes,
c'est vraiment l'heure parfaite.
C'est plus ou moins l'ouverture de la Green Room, ça?
C'est l'ouverture de la Green Room.
Ah ouais, l'ouverture, ouais.
Ok, waouh, et bah super. Et d'ici là, on vous voit aussi peut-être sur la tournée des Trans. Bah oui, il y avait une date qui est passée le jeudi dernier
à Lubu,
le 7 novembre,
ouais.
Mais vous passez à Saint-Brieuc la semaine prochaine, à Bonjour Minuit, ce sera ce samedi. Il y aura le samedi suivant à Morlaix. Enfin bref, on peut vous croiser sur la route, quoi.
Oui,
totalement.
Il y a quelle ambiance sur la tournée des Trans? Ça se passe comment?
Bah du coup, on a fait une date pour le moment, donc à Lubu, et franchement, c'était incroyable. Déjà, on a passé de super moments devant les sets, que ce soit de Cat White ou de Megadisc. On a passé de très bons moments, on s'est retrouvés entre artistes, c'est vraiment sympa. Et puis après, du coup, on a joué à 22h40, si je dis pas de bêtises, et c'était vraiment incroyable. En vrai, il y a déjà le fait d'être à Rennes, il y avait tous nos copains, donc c'était forcément cool. Et en plus de ça, bah voilà, on sent que c'est quand même l'énergie transmusicale, on sent que les gens viennent avec une certaine énergie au concert, et c'était vraiment fou, quoi. Il y a une énergie de fou, les gens sont très réceptifs, à l'écoute et se laissent porter, donc on a vraiment hâte d'être à samedi pour pouvoir jouer à Bonjour Minuit et ensuite au Sioux la semaine prochaine.
Vous parliez du titre Burn Me là, qu'on a entendu en live qui sort bientôt, ça veut dire quoi dans votre actu? Il y a un nouvel EP qui va arriver, un album, c'est quoi l'actu à venir pour vous?
Pour l'instant, on est plutôt sur une stratégie de single.
Okay.
On aime bien les singles. Pourquoi pas un EP plus tard? Pour l'instant, on n'a pas trop encore discuté de ça. Mais ouais, là, dans les prochains, jusqu'à cet été, en tout cas, c'est sûr qu'on a des singles de prévu. On aime bien ce format-là, il est assez efficace. Il faut réussir à faire danser les gens avec un seul morceau, entre guillemets. mais même si on danse rarement sur Spotify, mais mais voilà, en gros dans l'idée, ouais, c'est plutôt des singles.
Bon, l'émission touche déjà presque à sa fin. On va se quitter avec un autre morceau de Mac & Wester. C'est, vous pouvez nous le présenter un peu parce que c'est particulier, c'est un remix.
Totalement, c'est un remix d'un duo d'électro qui avait fait les Transmusicales en 2005, il me semble. Ce duo, ça s'appelle Darly Nikki. C'est un duo qui n'existe plus aujourd'hui, mais on les connaît personnellement. Et en fait, ils nous avaient proposé de faire un remix à eux il y a un an et demi, deux ans même quasiment.
Oui.
Et c'est un morceau qu'on joue à chacun de nos lives, qui est jamais sorti au final, mais qu'on joue à chacun de nos lives, puisqu'il est super. Donc voilà.
C'est aussi un morceau de Prince, apparemment. C'est le titre d'un morceau de Prince, avant d'être un duo rennais. Mais, mais c'est bien, comme ça on a la généalogie du nom. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être venu ici jouer ces morceaux en live à la radio.
Avec grand plaisir, merci, c'était super.
Quelques idées sorties pour se quitter, Kat ?
Eh bien, ce week-end, je crois que c'est le grand retour de Totoro à Rennes, n'est-ce pas ? On les attendait depuis pas mal d'années. Ils reviennent pour fêter les 10 ans de Home Alone, leur je sais plus
quel
était.
On en parle comme si c'était Johnny qui avait arrêté pendant 25 ans.
À Rennes, tu sais, Totoro, voilà. Et du coup, ils jouent ce samedi à l'Antipode et ils font une date de chauffe, un petit peu, comme on dit, à la Tête de Chou le vendredi, pour ceux qui veulent aussi venir les voir. Et voilà, moi, je dis qu'il y a peut-être un album en préparation.
En vrai, ça fait combien de temps qu'ils ont arrêté? Pas si longtemps que ça, quoi. 5 ans.
Je dirais 2018-19, par là, moi, non?
Ouais, ok.
Je me trompe peut-être complètement,
moi,
mais,
aussi,
mais je dirais, en tout cas...
Du coup, c'est marrant de faire le comeback, ça
on
y
a,
est.
On a tous un repère, c'est malheureusement le confinement, ils avaient annoncé ça avant, donc 2019 peut-être.
Ok, on peut passer son week-end à l'Antipode si on veut. Dès le vendredi soir, il y a une énorme soirée avec Enola Gay, Ménélias. Il y a aussi Orchestre Tout-Puissant, Marcel Duchamp. Enfin voilà, ça démarre le week-end. Après, le samedi, tu l'as dit, il y a Totoro. Et puis le dimanche, c'est complet, mais il y a Anya Raini qui fait une pianiste jazz qui est... Bah, si c'est complet, c'est pas par hasard, j'imagine. Il y a aussi samedi à l'Ubu une soirée Dig Dig Dig. Vous avez peut-être entendu la pub au début de l'émission.
Effectivement.
Et ça s'annonce vraiment cool aussi. Peut-être que Ben a d'autres, non, pas d'idées sorties pour ce week-end. Mais voilà, si vous voulez aller jusqu'à Saint-Brieuc ou si vous avez prévu d'avance d'aller à Saint-Brieuc, bah, sachez qu'il y a Mac & Wester. Ah, bonjour, minuit, c'est le samedi, hein, c'est ça?
C'est ouais. Ça, exactement.
On se quitte donc avec ce remix. On peut annoncer l'émission de la semaine prochaine, peut-être.
Tout à fait. La semaine prochaine, on reçoit Def Peach, donc la pêche sourde, c'est ça?
La
si
pêche
on traduit.
Sourde. Moi, ça me fait penser à la princesse dans Mario qui aurait écouté du Mac & Wester trop fort pour longtemps.
Peut-être, peut-être, peut-être.
Elle serait sourde, mais.
Voilà, elle vient de sortir son premier EP en début de mois, donc on la reçoit la semaine prochaine.
Eh ben super. On se quitte donc avec ce remix de Darly Nikki. Remixé par Mac & Wester, nos invités de ce jour. Et puis juste derrière, on écoutera peut-être un peu de Totoro si on a le temps. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Salut. Salut. Salut.